l'oiseau blanc, Philippe Trousselard, bonjour. L'oiseau blanc avec aujourd'hui
Dominique Allais.
Aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons relier la Terre au ciel. Ce lien au niveau du pilotage, cela peut être le décollage, l'atterrissage. Pour décoller, pour atterrir avec un avion, il faut se former. Pour voler, il faut savoir maîtriser son avion, son environnement, mais aussi se maîtriser soi-même. Mais comment se former sans être aidé ? Sans être accompagné par l'expertise de celle ou de celui qui s'est elle-même, lui-même, formé pour instruire. Pour appréhender ce contexte de la formation, l'oiseau blanc reçoit aujourd'hui un pilote instructeur de notre belle Occitanie, Dominique Allais. Alors, Dominique, j'oserais avec humour vous demander, quel oiseau êtes-vous ? Comment avez-vous commencé à voler ?
Oui, eh bien, je suis un vieil oiseau puisque j'ai quand même 67 ans. Je suis né en Normandie en 51, donc dans un petit village, Créance, qui pour la petite histoire est la capitale de la carotte nourrie aux algues marines. Passionné par l'aviation, j'ai débuté en pratiquant l'aéromodélisme sur le terrain d'aviation de l'Essé. L'Essé qui se situe, pour dire, entre Cherbourg et Granville. C'est l'aérodrome Charles Lindbergh, puisque Charles Lindbergh a eu l'occasion d'y passer après son exploit et sa traversée de l'Atlantique en mai 1927. Et après, il est revenu en Europe en passant par l'Essé, le 4 juin 1927 exactement. Donc, j'ai commencé par l'aéromodélisme en construisant des petits modèles réduits d'avions avec du vol circulaire, et ensuite du vol radiocommandé.
Et vous aviez quel âge à cette époque ?
Oh, j'étais adolescent, j'ai commencé à 13-14 ans.
D'accord, donc le déclic est arrivé très tôt pour vous.
Oh oui, très très tôt. L'occasion m'a été donnée un jour de faire un vol sur un avion de voltige. C'était un Cap 10, avec un instructeur bien connu dans le monde de la voltige. Il s'agit de Jean-Claude Le Boulanger. Et c'est ça qui a créé le déclic. Voilà, devenir pilote d'avion et faire partager cette passion en faisant de l'instruction en vol, c'était ma volonté. Mon parcours professionnel s'était orienté après le bac plutôt vers l'éducation nationale, où j'ai fait un petit peu d'expérience. Ensuite, dans la gérance d'une société de restauration, ce qui est un univers complètement différent. Alors, petit à petit, j'ai gravi les échelons du pilotage en m'inscrivant à l'aéroclub de l'Essé. Et j'ai pu devenir pilote privé avion au bout de 8 mois, ce qui est assez court.
Et donc, à quel âge vous avez commencé la formation de pilote ?
Oh, j'avais 17 ans.
D'accord.
Voilà. Alors, chaque année, à l'automne en plus, je partais en stage de pilotage planeur à Fayence, dans le Var. C'est un centre qui est très connu. Les vacances étaient aussi consacrées à l'aviation. Voilà, j'ai pu devenir ainsi pilote privé planeur. J'ai ensuite poursuivi ma formation pour devenir pilote professionnel, parce que mon idée étant de devenir instructeur, pour être instructeur rémunéré dans un aéroclub, il faut être pilote professionnel.
Alors, nous reviendrons par la suite sur les différences entre les, je dirais, pilotes professionnels et pilotes non professionnels. Donc, voilà, je vous laisse poursuivre, Dominique.
Voilà, ce stage de pilote professionnel, je l'ai fait à Grenoble. Ensuite, je suis revenu dans le club et j'ai demandé à être inscrit à une formation de pilote instructeur. Cette formation, je l'ai faite en 85 à Carcassonne. Et j'ai donc assuré... en même temps, j'ai fait une formation de mécanicien aviation générale. Ce qui m'a permis ensuite, dans l'aéroclub, d'assurer les fonctions d'instructeur et de mécanicien.
Donc, en fait, cette notion de mécanique continue à vous servir en tant qu'instructeur aujourd'hui.
Ah bah, tout à fait. Ouais. Pour les problèmes de résolution de panne, etc., c'est vraiment très pratique et très utile d'avoir eu une formation de mécanicien. Voilà, donc j'ai continué à voler dans ces qualités-là. Et un jour, même 3 ans après, c'était en 89, et je m'en souviendrai bien sûr toute ma vie, un appel à candidature au CEFA, qui est le service d'exploitation de la formation aéronautique, qui dépendait à l'époque du ministère des Transports, de la DGAC en général.
Donc la Direction Générale de l'Aviation Civile.
Voilà. Hein, ouais. Un appel à candidature en qualité de pilote instructeur donc au CEFA. Et j'ai répondu, bien sûr, et j'ai été engagé au centre de formation de Muret. Muret, au sud de Toulouse.
Où est né Clément Ader.
Ouais. Voilà, une autre référence aéronautique bien, bien célèbre. Voilà, dans ce centre de formation aéronautique de Muret, eh bien, j'ai pu assurer la formation d'élèves pilotes de ligne dans leur phase ab initio. Un pilote de ligne commence d'abord par une formation théorique, bien sûr, mais une formation pratique sur des avions légers, tels qu'on les voit en aéroclub, avant de passer en fin de cursus sur des machines plus compliquées et terminer ensuite sur les avions de ligne. Donc la formation de pilote de ligne ab initio. Ensuite, j'ai fait également des formations de pilote privé pour les agents de l'administration civile et militaire, et en particulier pour les futurs contrôleurs aériens qui étaient en formation à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Un cursus de formation qui se déroule sur 3 ans. Et dans la première année, les futurs contrôleurs ont une formation de pilote privé sur avion qui se fait, entre autres, à l'ENAC, centre de Muret.
Et d'ailleurs, Farid Zizi, que nous avons reçu le 8 mars dernier, nous disait que c'est grâce à cette formation qu'il avait découvert le plaisir de l'aviation pour commencer, grâce à cette formation. Et lui, à l'époque, c'était la formation ingénieur, en fait.
Oui, tout à fait. J'ai bien écouté avec attention la dernière émission qu'il a enregistrée. Et effectivement, il a fait sa formation de pilote au sein de l'ENAC. C'est le nouveau nom, en fait, qui a été donné au CEFA, dont je parlais tout à l'heure, puisque le CEFA n'existe plus. Il a été fusionné en 2011 avec l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile.
Dont nous recevrons le directeur Alain Chansou dans l'Oiseau Blanc d'ici quelques temps. Et donc, Dominique, vous parliez de formation, de différentes formations, pilote et puis pilote de ligne. En fait, dans ces formations, il y a à la fois ce qu'on appelle la formation du vol à vue, le vol aux instruments qui suit derrière.
Oui, alors tout à fait. On va commencer par le vol à vue. Le vol à vue se fait avec des références extérieures et en vue du sol. Le pilotage est basé sur l'aspect visuel. Les références qui sont prises sur le pare-brise de l'avion en comparaison avec l'horizon naturel que l'on voit.
Et quels sont les instruments, j'allais dire, fondamentaux pour le vol à vue ?
Alors, pour le vol à vue, bien sûr, il y a l'indicateur de vitesse, puisqu'un avion ne peut pas voler s'il n'a pas de vitesse. Ensuite, l'altimètre, qui nous permet de savoir où on en est par rapport au sol. Et il y a d'autres instruments qui sont importants, comme les instruments de radionavigation, mais également de cap, l'un étant lié à l'autre, pour savoir dans quelle direction on est, et surtout savoir si la route suivie est la bonne. Donc en comparaison avec le cap que l'on tient, et en comparaison également avec les moyens de radionavigation dont on peut disposer à bord.
Et on voit d'ailleurs dans ce que vous venez de citer, vous ne parlez pas de l'horizon et l'horizon artificiel qui est en fait beaucoup plus utilisé quand on est en vol aux instruments.
Oui, j'en ai pas parlé pour le vol à vue parce que justement, il faut éviter de mettre le nez trop à l'intérieur des instruments. En fait, tout se passe dehors.
Il faut regarder dehors, oui.
Voilà, ouais. Tout se passe dehors. Alors, de temps en temps, évidemment, il faut regarder les instruments donc de position, c'est-à-dire l'altimètre et le cap, hein, le compas. Également les instruments de mouvement, dits de mouvement, qui sont la vitesse et puis le variomètre, pour savoir si l'avion monte ou descend. Mais l'important, c'est donc de bien regarder dehors pour assurer voilà, une trajectoire qui est la plus stable possible. Et là, encore une fois, par référence à l'horizon naturel que l'on voit aussi bien de jour, je vais dire que de nuit, là, c'est un peu différent. De nuit, là, on va plutôt aller vers les références instrumentales de l'horizon artificiel.
Et vous avez, pardonnez-moi, je vais vous poser la question, on reviendra sur ce sujet, juste pour nous dire, vous avez combien d'heures de vol aujourd'hui, Dominique ?
Alors, à l'heure actuelle, j'ai accumulé 18 000 heures de vol. Ce qui est assez considérable, dont 12 000 heures environ en instruction. En fait, 18 000 heures de vol, si on fait une petite division simple, ça fait 600 heures de vol par an pendant 30 ans. C'est ce que a duré ma carrière d'instructeur. Et si on voulait convertir ça en, disons, mois et années de vol, eh bien, c'est comme si j'étais parti sans revenir pendant un peu plus de 2 ans. Ce qui est assez important.
Alors c'est vrai que 18 000 heures de vol, c'est impressionnant quand on voit certains commandants de bord de compagnies aériennes ou voire copilotes, quand on apprend quelquefois leur nombre d'heures de vol. Bon, 18 000 heures de vol, vous êtes bien placé. Je crois que c'est cette expérience que vous avez aujourd'hui acquise, et pour revenir en fait à la formation de pilote de vol à vue, pourriez-vous nous tracer rapidement les différentes étapes de la formation ?
On va s'arrêter sur peut-être une formation, c'est le pilote privé avion.
Oui, par exemple. Oui.
Alors, ça commence déjà par une visite médicale d'admission. Il faut être apte médicalement, donc reconnu par un médecin aéronautique agréé. Ensuite, il faut s'inscrire à un aéroclub, tout simplement. Il y a en France un peu plus de 500 terrains d'aérodromes différents. Et des aéroclubs à peu près partout. Donc, il y a vraiment l'embarras du choix. Il faut aussi une licence de la Fédération française aéronautique, la licence FFA, qui nous garantit une assurance, hein, dans la licence, y compris une assurance qu'on ne retrouve pas forcément dans l'assurance classique individuelle qu'on peut avoir auprès de n'importe quelle compagnie. Parce que bien souvent, quand on regarde ce qui est écrit en petit dans les clauses, l'activité de pilote est souvent excluse. Donc il faut vraiment une assurance spécifique. Et la FFA fournit cette assurance. Il faut évidemment suivre des cours de pilotage et des cours théoriques qui aboutissent sur un examen théorique. Dans la théorie, on étudie l'aérodynamique, la mécanique du vol, le fonctionnement de l'avion, la météo, les performances de l'avion, la navigation, la radionavigation et la réglementation aérienne. Alors, pour ceci, il est intéressant, pour quelqu'un qui est intéressé par le pilotage, de se munir d'un livre de chevet, on va dire, qui s'appelle « Le manuel du pilote privé », qu'on peut trouver aux éditions CEPADUS, un petit peu partout dans les librairies spécialisées.
Et pardonnez-moi de vous interrompre, Dominique, ce qu'on appelle le brevet d'initiation aéronautique, le BIA, à quel moment il intervient pour un jeune qui a envie de devenir pilote ?
Alors le BIA est tout à fait un acte volontaire pour un jeune, même très jeune, qui désire donc devenir pilote ou qui s'intéresse tout simplement à l'aviation. On peut commencer à 13 ans. À 13 ans, on peut s'inscrire pour suivre une formation BIA, donc brevet d'initiation aéronautique.
Sachant que la formation de pilote, donc vous venez de dire 13 ans, et à quel âge on peut commencer à piloter et quel est l'âge minimum en fait pour pouvoir voler et être, je dirais, quelque part qualifié, quoi.
Voilà. Alors, pour terminer ce que je disais tout à l'heure, on était à l'examen théorique. On a pris des cours de pilotage et à peu près au bout de 10-15 heures de vol, on peut être lâché, c'est-à-dire voler seul à bord. Et ce lâcher ne peut intervenir qu'à l'âge de 16 ans. Voilà, il s'agit d'un vol, le premier vol, on s'en rappelle, hein, lorsqu'on le fait, évidemment, c'est quelque chose qui est inoubliable. C'est un vol en général en tour de piste. On ne s'éloigne pas trop du terrain parce qu'on est bien content de décoller, mais on ne demande qu'une chose, c'est de revenir. En tout cas, on peut faire un vol donc sur le terrain de départ et proche de l'aérodrome, on va dire.
Vous venez de parler du vécu du pilote, de l'élève lui-même. Mais le vécu de l'instructeur, ce n'est pas vrai. Ça doit être un événement particulier, lâcher un élève.
Oui, alors tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique à la fonction d'instructeur. C'est un moment clé vraiment dans la formation, hein, dans la prise en compte d'un élève. C'est de le laisser partir un jour de ses propres ailes. Et en général, on peut être rassurant là-dessus, ça se passe toujours bien. Toujours bien parce que avant quand même de le lâcher, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien aussi.
Oui, mais vous pratiquez quelquefois, enfin, je ne m'adresse pas particulièrement à vous, Dominique, mais il y a un effet de surprise. Moi, je me souviens personnellement dans mon vécu, quand votre instructeur vous dit, vous venez d'atterrir en formation, et l'instructeur vous dit, bon, maintenant, tu repars tout seul.
Alors, je pense que l'instructeur va rebondir sur un effet de surprise, effectivement. Concrètement, ça se passe comment ? Bien, on fait des tours de piste, comme on fait d'habitude. Et puis, effectivement, un beau matin, l'instructeur descend de l'avion et vous dit « Eh ben, c'est à vous, allez-y. » Et à ce moment-là...
Et c'est un moment où on grandit, il me semble.
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Après, le lâcher donc à 16 ans... Pas avant. Et ensuite, évidemment, on va poursuivre sur la formation. Et l'examen final qui sanctionne la formation de pilote privé ne peut être fait qu'après 17 ans. Donc on peut passer le brevet le jour de ses 17 ans, mais pas avant. Ce brevet, donc cet examen final... demande une expérience de 43 heures de double commande avec un instructeur habilité, de 10 heures de vol seul à bord et 5 heures de navigation, dont un vol de au moins 300 km sur la campagne. Voilà, pour aboutir au PPL. Donc, qui est un trigramme anglais qui veut dire Private Pilot License.
En fait, je pense que pour nos auditrices, auditeurs, vous faisiez tout à l'heure référence à la Fédération française de l'aéronautique. Il y a un site, cette Fédération française de l'aéronautique, qui a d'ailleurs été créée en 1929, il me semble, dispose d'un site qui est ffa-aero.fr, donc je répète, ffa-aero.fr, et site sur lequel on retrouve toutes les informations de ce type qui précise en fait la formation générale pour un élève. Plus globalement, ce site est intéressant pour toute recherche.
Oui, tout à fait. Moi, je conseille à tout le monde d'y aller et de s'inspirer de tout ce qui est proposé. Il est très bien fait et on a effectivement tous les détails en ce qui concerne les inscriptions, en ce qui concerne l'organisation des formations. Le BIA est également mentionné. Non, c'est vraiment un site à faire absolument, à voir absolument.
Alors pour revenir, Dominique, à l'oiseau que vous êtes, que vous avez décrit, vous avez repris tout à l'heure mon humour dans votre réponse. Quelles sont les phases particulières? On ne va peut-être pas toutes les citer, mais est-ce que vous avez des phases d'instruction qui, pour l'instructeur, sont importantes et bien évidemment pour l'élève aussi?
Oui, c'est-à-dire que ça demande, devenir élève pilote, ça demande beaucoup de rigueur et d'attention. Ce sont en fait les qualités qu'on pourrait demander à un élève pilote. En dehors de ça, un sens logique, le respect de la réglementation, et surtout une remise de question, une remise en question de soi-même, c'est-à-dire savoir être assez pas trop sûr de soi, hein, toujours se dire j'ai quelque chose à apprendre au cours de la formation, un bon sens de la sécurité également, de la communication avec les contrôleurs et avec son instructeur, parce que lorsque quelque chose ne va pas, il ne faut pas hésiter à le dire en vol, ne serait-ce que pour savoir si on se sent bien, à l'aise ou non.
Ce qui permet d'ailleurs à l'instructeur de savoir encore mieux si son élève est en difficulté. Parce que c'est un point d'ailleurs qu'on a aussi abordé avec M. Farid Zizi quand on parlait de l'organisation de l'aviation civile internationale et de l'obligation de faire part de son erreur. Mais plus globalement, dans l'instruction, il est important que l'élève puisse se confier et qu'il existe en fait entre l'instructeur et l'élève une mise en commun de toutes ces étapes.
Oui, tout à fait, une mise en commun, une mise en confiance, de façon à ce que les leçons se suivent et progressent vers le but. Hein.
Ce qui signifie peut-être que tout le monde ne veut pas être instructeur.
Oui, alors je pense qu'il faut effectivement des qualités d'écoute importantes et savoir trouver le bon remède lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas évident, ça demande beaucoup de pédagogie, on va dire.
Alors vous parlez de remède, le premier vol, lorsque l'élève est dans l'avion pour la première fois avec, je vais dire, son instructeur. Est-ce que lors d'un premier vol, on peut avoir peur? Est-ce que cette peur-là est normale?
Je n'appellerais pas ça de la peur, parce que la peur tétanise un peu.
Bien sûr, oui.
Ce serait plutôt de l'appréhension. Vous voyez, le degré en dessous de la peur. Je ne connais pas d'élève qui n'ait pas eu de cette appréhension. Je crois que l'élève a d'ailleurs moins d'appréhension que l'instructeur. Parce que l'instructeur voit quand même l'avion partir avec l'élève seul à bord, c'est lui qui souffre le plus, c'est sûr.
Et même pour le premier vol, je dirais seul, mais le vol Tout au début de la formation, lorsque l'élève est avec son instructeur dans l'avion, il n'a jamais volé. Peut-être certains d'ailleurs n'ont jamais volé. Ils montent dans un petit avion avec l'instructeur, ils apprennent à voler. Et là, on se retrouve en l'air et on peut avoir, comme vous le dites, une appréhension. Je pense que ce que vous dites, l'appréhension, la différence entre l'appréhension et la peur, elle existe peut-être aussi dans cette première étape.
Oui, tout à fait. Il y a quelques cas quand même de personnes, et on le voit tout de suite, hein, la première demi-heure de vol, qui ne sont pas, disposés à voler parce qu'ils deviennent très vite malades. Le fait de devenir malade au bout d'un quart d'heure, ça peut s'arranger, mais on a vu des cas où on est obligé d'interrompre la formation pour des élèves qui se sentaient bien, qui ne se sentaient pas bien dans l'avion. Et à ce moment-là, y a pas de souci. Mais quant à l'appréhension, elle est tout à fait naturelle au début et elle s'estompe au fur et à mesure des vols. Il faut savoir qu'en avion, on est soumis à toutes les accélérations de tous les côtés lorsqu'on fait un virage, une montée, une descente, et c'est très dérangeant pour l'organisme. Donc il faut s'y habituer. Et on ne s'y habitue pas comme ça en 5 minutes. Il faut des heures et des heures.
C'est un peu le conseil qu'on peut donner à tout passager d'une compagnie aérienne, finalement.
Oui, tout à fait. Oui, ouais. Ça serait un bon remède de faire un petit peu d'avion privé, on va dire.
Alors, quand vous venez de dire que l'avion peut partir dans différents, je dirais, points de l'espace, pour revenir à la formation et les points particuliers de la formation, quels sont-ils au début ? Est-ce qu'il y a une phase de cette formation ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, donc il y a la formation théorique qui va de pair avec la formation pratique. Ce sont des cours qui se suivent et qui sont en relation, évidemment. Hein, on va parler de théorie et l'appliquer en vol ensuite. Ça donne lieu à la formation d'un dossier, d'un dossier de formation, donc qui aboutit au lâcher et à l'examen final.
Et donc, entre la formation théorique, le lâcher, bon, je suppose que le premier décollage, même on parlait tout à l'heure du premier décollage seul, et il y a le premier décollage, si je puis dire, seul, mais avec l'instructeur à bord, où l'instructeur vous dit, bon, et maintenant, tu fais ton décollage. Mais vous, en tant qu'instructeur, vous surveillez et vous...
Oui. Faut pas. Oui, au début, il est certain qu'on manipule beaucoup les commandes. Et c'est vrai que ce passage, cette transmission du savoir-faire vient assez vite. Le décollage, par exemple, c'est une phase qui est très rapide. Au bout de 3 séances, souvent l'élève est capable de décoller. Atterrir, c'est une autre affaire. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans le vol. C'est réussir l'atterrissage. Mais voilà, donc le fait de bien s'approprier le pilotage initial du vol, c'est-à-dire le décollage, la montée, la mise en croisière, eh bien c'est très réconfortant pour l'élève qui se sent tout de suite en confiance. Il est capable de le faire. Donc on le laisse faire. Ensuite, on le prévient que l'atterrissage... Là, tout ce qui est approche, etc., ça va être long, très long. C'est ce qui est le plus long. Il faut, comme je le disais, être sûr de pouvoir le lâcher en toute sécurité au bout de 10 à 15 heures, voire 20 heures, parce que c'est très, très irrégulier selon les personnes. Mais disons que maximum 20 heures, après, on peut se poser des questions pour être capable de poser l'avion.
Et cela dépend des conditions, je dirais, de l'environnement aussi, et météo en particulier.
Oui. Alors, il est certain que dans la formation, on va aller chercher des conditions météo qui ne sont pas forcément idéales, pour que justement tous les cas de figure soient vus. En particulier, le vent, il est souvent, on s'arrange pour qu'il soit dans l'axe de la piste, donc que l'atterrissage se fasse face au vent. Mais parfois, il arrive que le vent ne soit pas dans l'axe. Donc, il faut apprendre à poser l'avion avec du vent de travers. Et le vent de travers demande une technique un peu particulière. Alors c'est valable aussi pour les avions de ligne. Quand on voit un Airbus qui se présente sur la piste de Blagnac, eh bien parfois, lorsque le vent est de travers, on voit que l'avion n'est pas tout à fait dans l'axe de la piste. Il s'y met au dernier moment. Alors, juste au moment de l'atterrissage.
On en parlait avec Claude Lelay, l'ancien directeur des essais en vol d'Airbus, et qui est venu à l'Oiseau Blanc il y a quelques semaines, et il nous parlait justement du vent de travers sur l'Airbus A380 avec 50 nœuds hein, de possibles. Et de mémoire, il me semble qu'il nous a dit à l'époque, mais finalement, c'est plus sensible sur un avion léger. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler du vent de travers? Comment vous appréhendez ce vent de travers avec l'élève, et puis après, peut-être après la pause dont on va parler dans quelques minutes, le décrochage. Mais déjà, le vent de travers, comment...
Le vent de travers, oui, c'est une technique particulière. Parce qu'il faut bien décomposer les choses au moment de l'atterrissage, ne pas faire trop vite, trop tôt, trop peu ou trop tard. On va donc présenter l'avion avec... Le nez de l'avion ne va pas être tout à fait dans l'axe de la piste, l'axe longitudinal de la piste. Il va plutôt être un petit peu vers l'endroit d'où vient le vent. En général, c'est de l'ordre de 10 à 15 degrés maximum de dérive, on va dire. Ensuite, l'approche se fait à la vitesse qui est convenue pour l'atterrissage normal. La difficulté, ça va être de tenir cet axe de piste, puisque trop de corrections, vous quittez l'axe à droite, ou du côté du vent. Pas assez de corrections, vous quittez l'axe de l'autre côté. Donc déjà, il faut bien tenir l'axe. Ensuite, lorsqu'arrive l'atterrissage en lui-même, eh bien, il faut savoir réduire raisonnablement et au tout dernier moment, ramener l'avion avec l'aide de la gouverne de l'AC, c'est-à-dire les palonniers, sur l'axe de piste.
Les palonniers, ce sont les gouvernes qui sont au...
Voilà, les commandes de l'AC qui agissent sur la dérive à l'arrière, la dérive verticale, c'est la petite gouverne verticale qui est à l'arrière de la queue de l'avion. Donc c'est au dernier moment qu'il faut agir du sens contraire du vent. Vous voyez, donc il y a un croisement de commandes qui n'est pas facile, qui est très technique, et... Bon, c'est pas évident au début pour bien le maîtriser. Et ça, c'est un point important du vol, puisque normalement, on doit considérer qu'un pilote doit être capable de voler et d'atterrir l'avion dans toutes les conditions, y compris le vent de travers.
Alors, Dominique, le moment est venu de notre petite pause musicale. Et celle-ci a été choisie par vous, SOS d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine. Expliquez-nous un peu votre choix avant d'écouter cette chanson.
Oui, c'est d'abord... Daniel Balavoine était un chanteur qui a disparu en 85. J'étais en train de faire le stage d'instructeur à Carcassonne, je m'en souviens très bien. Et j'ai trouvé qu'il avait dans son répertoire des chansons magnifiques qui suggérait, en particulier pour celle-là, SOS, l'intérieur en détresse, qui suggérait le vol acrobatique, le vol en voltige, puisqu'on a des montées très très dans les aigus et des descentes, c'est également dans les graves, et qui vraiment colle parfaitement avec un tour d'avion, celui qui a justement a créé le déclic chez moi pour devenir pilote instructeur.
Alors nous écoutons.
Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. perdu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Grand loto de l'univers. J'ai pas tiré le bon numéro. Je suis mal dans ma peau. Pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde.
Alors, Dominique, vous m'avez fait écouter cette chanson comme jamais je ne l'écoutais. C'est-à-dire qu'en fait, quand Balavoine dit « je sens quelque chose qui m'attire vers le haut », je crois qu'on est en plein dans le contexte de l'apprentissage et de l'envie de voler, dont on a parlé d'ailleurs dans la première émission de L'Oiseau Blanc. Mais déjà, bon, je profite de ce relais. Bon, on peut avoir envie, mais l'avion, ça coûte un peu d'argent. Est-ce qu'il y a des aides particulières pour les jeunes qui veulent se former au pilotage?
Oui, tout à fait. La Fédération française aéronautique prévoit, au travers du BIA, du brevet d'initiation aéronautique, une aide financière sous forme de bourse. Bon, bien sûr, il faut faire partie d'un aéroclub. Tout d'abord, en général, les aéroclubs sont des associations de loi de 1901, donc sans but lucratif. Et pour être membre, eh bien, il suffit, donc, comme je le disais tout à l'heure, une visite médicale à jour, la licence à jour, la licence, donc la cotisation du club à jour et la licence FFA. Avec le BIA, un jeune, donc à partir de 13 ans, hein, peut bénéficier de bourses, d'aide. Et ça se traduit concrètement le jour du lâcher, hein, dont on parlait tout à l'heure, cet événement si important dans la vie d'un pilote, par une aide qui se monte à 335 euros, ce qui n'est pas rien, pour le premier vol sur le sol à bord. Ensuite, l'obtention du premier brevet, qui est le brevet de base, et qui s'appelle maintenant le LAPL, Light Aircraft Pilot License, eh bien, lors de son obtention par le jeune pilote, hein, eh bien, il perçoit une aide de 335 euros. Si en plus il a donc le BIA avec lui, eh bien, ce montant est élevé à 500 euros, ce qui n'est pas rien. Et enfin, en fin de formation PPL, Private Pilot License, eh bien, ce montant est de 670 euros. On peut considérer que l'ensemble des aides, pendant un cursus complet, le lâcher, le LAPL et le PPL, si le jeune va jusqu'au bout, il pourra avoir une aide de plus de 2000 euros, ce qui n'est pas rien.
Oui, ce qui représente un pourcentage non négligeable de la globalité de frais. Sachant qu'une heure de vol...
Alors, c'est extrêmement variable en fonction des aéroclubs, hein, qui calculent l'heure de vol avec l'équipement de la machine, la consommation horaire de carburant, les coûts de l'entretien, un tas de paramètres qui y rentrent en jeu. Mais en général, on peut dire que ça se situe à l'heure de vol, essence comprise, entre 120 et 200 euros. On voit beaucoup d'avions qui sont loués pour donc 150 euros environ de l'heure.
Oui, sachant que par ailleurs, on a souvent des instructeurs bénévoles.
Tout à fait. Là, on parle de net, c'est-à-dire que là, il n'y a pas aucun frais à rajouter pour que ce soit l'instructeur ou pour que ce soit des frais annexes. C'est en général l'aéroclub qui prend tout en compte.
Donc cette envie de voler que vous avez si bien exprimée tout à l'heure, bien vous continuez à l'exprimer en tant qu'instructeur par ce côté bénévolat qui continue.
Bien sûr.
En faisant abstraction, bien évidemment, de votre carrière professionnelle par ailleurs.
Oui. Je suis en retraite depuis 2 ans maintenant et j'ai en charge l'aéroclub Lénac Centre de Muret en qualité chef pilote. Et effectivement, je continue à titre bénévole. Là, je fais ça vraiment pour le plaisir. Et c'est un plaisir qui ne m'a jamais lâché. Et je continuerai à le faire encore, j'espère, longtemps.
Donc, on vient de donner à nos jeunes auditrices, jeunes auditeurs, une bouffée d'air. Je n'oserais pas parler de bouffée d'argent possible. On va revenir sur les points sur lesquels nous étions tout à l'heure. On parlait du vent de travers. Et vous avez d'autres phases du vol. Avec Claude Lelay, on parlait du décrochage dans l'Airbus 380. Alors, le décrochage dans un petit avion léger.
Alors, le décrochage, c'est vraiment un aspect très important dans le processus de formation d'un élève, puisqu'il faut aller le voir. Il faut voir ce qui se passe au niveau aérodynamique dans un avion lorsqu'il décroche. C'est quoi le décrochage? C'est un état de vol où l'avion ne vole plus. C'est-à-dire qu'on n'a plus assez de vitesse pour assurer la portance. Puisque pour qu'un avion vole, il faut que la portance de l'avion, c'est une force dirigée vers le haut, soit égale au poids de l'avion, qui est une force dirigée vers le bas. À partir du moment où la portance n'assure plus le poids, eh bien, à ce moment-là, à partir d'une certaine vitesse, on a ce qu'on appelle le phénomène de décrochage. C'est-à-dire qu'il y a un recul très important du centre de poussée de l'application des forces vers le haut, qui recule brutalement et l'avion, d'un seul coup, fait une abattée vers l'avant. Et la seule façon de récupérer un décrochage, eh bien, c'est de retrouver de la vitesse suffisante pour assurer la portance qui a manqué au moment du phénomène. Alors ça, c'est applicable sur un avion léger. Un décrochage avec un avion léger va vous coûter, en termes d'altitude, à peu près 300 mètres. Bon, si on vole assez haut, on s'en sort. Si on a un décrochage trop près du sol, il est certain que là, il va y avoir problème.
D'où l'intérêt d'avoir une vitesse bien gérée lorsqu'on est en phase avant l'atterrissage, en fait.
Tout à fait. Alors, je parlais de l'avion léger, mais c'est valable aussi pour l'avion de ligne. Un Airbus va décrocher. Il est évident que les lois aérodynamiques s'appliquent à tous les avions. Il va décrocher de la même façon. Mais évidemment, ce n'est pas 300 mètres. C'est peut-être 3000 mètres qu'il lui faudra. Donc là, ce n'est plus du tout la même chanson.
Alors, je pense à quelque chose de particulier, pour éclairer nos auditrices, auditeurs. Lorsqu'on est passager, vous parliez d'avion de ligne, Dominique, lorsqu'on est en phase, lorsqu'on approche de la piste, on voit souvent en bout d'aile ce qu'on appelle les volets qui se développent. Et en fait, c'est pour modifier quelque part la portance, puisqu'on a moins de vitesse ou pas.
Voilà, donc le but étant de se poser sur la piste avec une vitesse minimale, il va falloir trouver des artifices pour augmenter la portance. Et la portance se fait au travers de volets qu'on va sortir. On les voit, on les entend d'ailleurs dans l'avion de ligne qui sortent lorsqu'on est dans l'Airbus, en même temps que le train d'atterrissage, qui sert aussi pour l'atterrissage, évidemment. Et ce dispositif permet de diminuer la vitesse, donc, de façon à pouvoir se rester en dehors de la vitesse de décrochage, mais légèrement dessus. Donc on va avoir un pourcentage d'environ 30%. On va être 30% au-dessus de la vitesse de décrochage. C'est la marge de sécurité qui est admise pour toutes les phases d'approche.
Et cette vitesse de décrochage, en fait, on s'aperçoit que les volets, là, s'ils sont développés d'une certaine manière ou d'une autre, cette vitesse varie, d'où l'intérêt de la rechercher peut-être.
Voilà, exactement. Donc, pourquoi on étudie le décrochage ? Eh bien, d'abord, pour mettre en évidence les lois aérodynamiques qui s'appliquent de façon stricte. Lorsqu'il n'y a pas assez de vitesse, l'avion décroche. On va aussi étudier toutes les phases de décrochage. On va avec les volets, sans les volets, et voir et constater que la vitesse va diminuer si on apporte des dispositifs hypersustentateurs qui augmentent la portance. Et à partir de là, on va régler toutes les vitesses qui sont utilisées pour l'avion. C'est-à-dire la vitesse d'approche avec les volets rentrés, la vitesse d'approche avec les volets donc en position, on va dire simplement position d'approche, et la vitesse d'approche avec le train sorti et les volets atterrissage. Trois vitesses différentes. Et qui sera basé sur toujours un pourcentage au-dessus de la vitesse de décrochage qu'on a définie et qui est définie de façon précise pour tous les avions, qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros.
Alors, quand on monte dans un avion léger, dans le cockpit d'un avion de ligne, bon, il y a le manche ou le, j'allais dire de façon humoristique, le joystick sur certains avions, le manche. On a parlé du palonnier tout à l'heure pour la gestion du vent de travers. On vient de parler des volets pour la gestion du décrochage. Et pour virer à gauche ou à droite, comment on fait alors ?
Alors, pour virer à gauche et à droite, on va se servir. En fait, on va modifier l'axe de portance au travers des ailerons. Ce sont les ailerons qui vont créer le virage. Les ailerons, ce sont les petits volets qui sont au bout des ailes et qui vont battre de façon contradictoire pour créer une différence de portance sur une aile. Donc l'aile, pour tourner par exemple à gauche, on va augmenter la portance de l'aile droite. L'aile droite va se lever, l'aile gauche va se baisser et on va créer effectivement un virage en modifiant l'axe de portance de l'avion.
Alors c'est extraordinaire parce que bon, on commence déjà pratiquement à gérer le vent de travers, on vient de gérer la portance avec les volets, on vient d'apprendre un peu comment tourner à droite, comment tourner à gauche, et maintenant pour monter et descendre.
Alors pour monter et descendre, là il n'y a rien de plus simple. Je vous le disais tout à l'heure, l'action du décollage, c'est une des phases les plus simples de l'apprentissage. Pour décoller, rappelons-nous de notre vitesse de décrochage, on aura besoin d'une certaine vitesse. Cette vitesse donc, sera basée, là aussi, sur le décrochage, avec une marge de 10% environ. Si on a la passée, la vitesse de décrochage de 10%, on peut espérer, avec de grandes chances de réussite, que l'avion vole. C'est pour ce qu'on appelle la vitesse de rotation, où là, l'avion va faire une rotation vers le haut. Donc, on décolle. Si vous avez un décrochage à 100 km/h, vous allez décoller à 110, avec une petite marge supplémentaire. Voilà, à 110 km/h. Et après, la vitesse augmente très vite, et on va monter avec une marge un petit peu supérieure de 20 à 30%. Par rapport au décrochage.
Et ce qu'on appelle le vol lent.
Alors, le vol lent, une fois qu'on a... C'est une phase très importante dans la formation. Lorsqu'on a démontré que le décrochage se fait toujours à la même... On va parler d'incidence. Donc, pratiquement, les ailes à plat, ça se traduit par une vitesse à peu près constante. C'est vrai qu'elle tiendra compte de la masse de l'avion, ça tiendra compte également de la masse d'air, mais globalement, on a souvent la même vitesse. À partir du moment où on a défini une vitesse de décrochage, on va faire l'apprentissage du volant en ne prenant une marge que très faible par rapport au décrochage. C'est-à-dire que le volant se situe à 1,2 à 20% au-dessus de la vitesse de décrochage. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour habituer le pilote à bien maîtriser tout le domaine de vol de l'avion, même le plus faible possible, mais en restant avec une marge de sécurité suffisante. On pourrait être amené à voler lentement, donc faire du vol lent, dans des cas un peu particuliers. Ce n'est pas un cas d'utilisation normal, le vol lent. C'est utilisé juste pour l'instruction. Pour démontrer que l'avion vole très bien ou est tout à fait maîtrisable à une vitesse à peine supérieure à la vitesse de décrochage.
Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette question technique de la gestion de l'avion, de l'apprentissage. Dominique, vous nous donnez envie, j'espère qu'on donne envie à nos jeunes qui nous écoutent d'apprendre et de concrétiser leur envie de voler. Alors moi j'ai une question pour revenir un peu sur le contexte un peu plus général. On était dans le contexte du vol à vue. Pourriez-vous nous décrire le contexte du vol aux instruments? Parce que je crois que vous êtes, certes, vous êtes instructeur vol aux instruments, mais vous testez également certains pilotes qui ont leur qualification de vol aux instruments.
Alors, depuis que je suis en retraite, j'ai perdu la qualification instructeur aux instruments, parce que l'occasion ne m'est plus donnée. Il faut un avion équipé, on n'a qu'un seul petit avion dans l'aéroclub, il n'est pas équipé pour ce genre de vol. Mais effectivement, toute mon expérience des 20 dernières années donc a été basée en grande partie sur le vol aux instruments IFR.
Et on parlait tout à l'heure de l'horizon artificiel et vous disiez finalement l'horizon s'applique plus au contexte du vol aux instruments. Alors quelle est la grande différence entre le vol à vue et le vol aux instruments et...
Alors, la grande différence, c'est donc les références qui ne sont plus les mêmes. Pour le vol à vue, encore une fois, il faut regarder dehors. Regarder dehors et voir le sol, l'horizon, de façon à pouvoir contrôler les trajectoires de l'avion. Et par référence extérieure exclusivement. Pour le vol aux instruments, il est possible que la trajectoire de l'avion nous permette plus de voir dehors. Je décolle, je vois très bien, et à un moment donné, je vais rentrer dans les nuages. Si je rentre dans les nuages, je ne peux plus voir dehors. Je ne peux plus contrôler l'avion visuellement. Et bien là, on va contrôler sa trajectoire à l'aide d'instruments à bord, l'instrument principal étant l'horizon artificiel qui reproduit très fidèlement l'horizon naturel qu'on ne voit plus. C'est ainsi qu'on va piloter l'avion et évidemment là il y a obligation de regarder que dedans. C'est toute la différence avec le vol à vue. Vol à vue, c'est disons 80% d'observation extérieure et 20% sur les instruments dont je parlais tout à l'heure, de position, de mouvement. Mais le vol IFR, donc aux instruments, c'est un peu le contraire. C'est le contraire. On va regarder à 80% les instruments et si évidemment on n'est pas en vol de nuage, on va regarder quand même 20% extérieur, puisqu'on peut très bien avoir d'autres avions qui se trouvent à proximité.
Si on vole aux instruments, il faut savoir où on va.
Alors, le vol aux instruments, effectivement, est, disons, relativement plus compliqué à obtenir sur le plan de la qualification. mais peut-être plus simple à gérer au niveau des trajectoires. Parce qu'on va, en vol aux instruments, passer d'une balise radioélectrique, donc d'un signal radioélectrique, à un autre. Et on va organiser tout le vol entre balises radioélectriques, ce qui n'est pas du tout le cas dans le vol à vue, puisque le vol à vue, ce sont des références qui sont prises au sol, exclusives, et donc qui ne sont pas à suivre. Hein. On peut très bien passer d'une ville à une référence d'une forêt, d'une autoroute, etc., en vol à vue, alors qu'en vol aux instruments, eh bien là, on est obligé de suivre des routes bien précises qui sont en général marquées par des balises radioélectriques.
Alors c'est un bel exercice dans lequel nous sommes, parce que démystifier le vol à vue, le vol aux instruments en quelques minutes, et Dominique, vous y parvenez bien. Bon, après, il vous nous faudrait quasiment une émission complète pour parler du vol aux instruments. Mais vous, en tant que instructeur, quel était le plus difficile ? C'est instruire dans le vol à vue ou instruire dans le vol aux instruments ?
Alors de loin, c'est l'instruction en vol à vue, bien sûr. Parce que, justement, il faut tenir compte d'éléments en vol à vue qui ne sont pas évidents, beaucoup moins évidents qu'en vol aux instruments. Je parlais tout à l'heure des trajectoires entre balises. Vous voyez tout de suite l'avion qui dévie par rapport à sa route en fonction de l'indicateur de la balise qui se trouve devant. Ce qui n'est pas du tout le cas en vol à vue, puisque la trajectoire sol qui est suivie par l'avion va dépendre du cap que va prendre le pilote en fonction des repères. Mais si ces repères-là ne sont pas visibles, souvent ça se traduit par une erreur de route qui est parfois importante. J'ai l'exemple, je me rappellerai toujours, d'un élève laotien qui était en formation donc, de pilote professionnel chez nous. Et on est parti un jour de Muret vers Pamiers. Donc Pamiers se trouve à l'est de Muret. Donc au décollage, on a fait un premier virage à gauche. On a vu les Pyrénées devant, c'était normal, puisqu'elles sont au sud. Et on devait normalement partir donc, vers l'est. On est parti vers le sud-est. Et à un moment donné, il y avait un fort vent d'est donc, qui a dévié l'avion et l'élève n'a pas perçu immédiatement cette dérive. Et on s'est retrouvé à un moment donné avec les Pyrénées devant. Donc il y avait déjà un problème. Et les Pyrénées devant, ensuite on a poursuivi et la dérive est toujours vraiment effective et on s'est retrouvé avec les Pyrénées à gauche sans aucune réaction et on a fini à Tarbes. Alors on voit que en vol à vue, bien évidemment il faut tenir compte des éléments extérieurs mais c'est quelque chose qui ne pourra jamais arriver en vol aux instruments puisque évidemment, un écart de route comme ça serait absolument serait détecté tout de suite et absolument impossible.
Vous venez de faire référence à une expérience en tant qu'instructeur. Il me brûle une question. Vous avez vécu des pannes moteurs de votre côté ?
Alors, des pannes réelles, non, mais des pannes provoquées, bien sûr. Et là, ça fait partie aussi de l'instruction. Un élément très important de l'instruction, c'est de pallier à un éventuel arrêt du moteur. Bon, il faut se rassurer, ça arrive extrêmement, extrêmement rarement. Mais il faut que le pilote soit capable de faire face au cas où. Il y a eu des cas, hein. Il y a eu des cas en aviation générale où le moteur s'est arrêté ou partiellement arrêté. Il faut savoir qu'un avion peut devenir sans moteur un planeur, sans problème. et que le pilotage, à ce moment-là, se fait évidemment d'une façon particulière. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est sauvegarder la vitesse et puis diriger l'avion vers une zone, disons, d'atterrissage qui peut être de fortune, ça peut être un champ. Mais lorsque la panne arrive au-dessus d'une piste, évidemment, c'est beaucoup plus simple. C'est en général, dans la formation, ce qu'on fait. On fait ça, évidemment, au-dessus de la piste, avec l'arrêt moteur à la verticale, environ 1000 mètres. Eh bien, on coupe le moteur et on demande à l'élève, évidemment, de se poser dans une partie, disons, raisonnable de la piste, ni trop court, ni trop long, de façon à pouvoir être précis si malheureusement il y a une panne moteur.
Avec, lorsqu'il y a un vent assez conséquent, la recherche du bon vent pour trouver la bonne direction.
Ah oui, alors évidemment, tous les éléments sont à prendre en compte. Bon, là, je ne vais pas dans la description dans trop de détails, parce que il faut que ce soit tout à fait accessible à tout le monde. Mais effectivement, les éléments extérieurs sont importants pour la réussite de l'exercice.
Alors, Dominique, on a bien fait le tour de l'ensemble des exercices. Et on est sur une radio, et cette radio, il y a le mot Occitanie. Et je vais reprendre ce que disait, je vais faire encore référence à M. Farid Zizi, qui faisait... C'est assez surprenant parce qu'il nous a dit « Voler au-dessus de l'Occitanie, c'est un réel plaisir, c'est énorme. On a la météo, on a la nature qui est belle et on a toutes les joies de l'aviation. » Alors l'Occitanie, 18 000 heures de vol, vous nous avez dit, si je ne me trompe pas. Vous avez eu l'occasion de la regarder de haut. Vous pourriez nous donner un peu des images de votre vécu.
Alors oui, Occitanie, c'est c'est 30 ans de ma profession. J'avais la chance d'avoir un bureau situé tout à fait là-haut et j'ai pu évidemment admirer toute la beauté du paysage, en particulier. Dans le secteur sud, du côté des Pyrénées, évidemment, qui sont magnifiques, avec le Mont Valier, aux alentours de 2500 mètres. Je ne peux pas dénombrer le nombre de fois que je suis allé faire le pic du Midi, tout à fait là-haut, faire le tour de l'antenne à 3000 mètres. Le cirque du Gavarnie, pour en citer que quelques-uns, le cirque du Gavarnie, sachant que le site est quand même zone protégée, avec un parc naturel, donc à voir, mais de loin, mais c'est magnifique.
Que la montagne est belle, dirait Jean Ferrand.
Tout à fait. Et si on part sur Perpignan, à l'est, on a toute la série des châteaux cathares perchés sur leurs pitons, qui sont magnifiques à découvrir. Si on part vers l'ouest, on arrive au Pays Basque, vers Biarritz. Pays Basque très très beau, avec le golfe de Gascogne qui apparaît d'un seul coup lorsqu'il fait beau. C'est très très beau à voir aussi. Quoi d'autre? On a aussi, si on part vers le Massif central, c'est pas mal non plus, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est magnifique.
Et la Méditerranée, vous avez des traversées particulières ou des...
Oui, alors ça m'est arrivé bien, bien souvent en voyage, évidemment, d'aller longer la mer du côté de Montpellier, poursuivre sur la Camargue, ensuite faire toute la Côte d'Azur. C'est des itinéraires qui contraignent le pilote à voler très bas d'ailleurs, donc ce qui n'est pas inintéressant puisque on admire encore mieux le paysage, sachant que ces trajectoires sont obligatoires.
Vous faites partie, Dominique, des pilotes qui à la fois aiment voler mais qui continuent d'aimer la nature.
Ah oui, tout à fait, ça c'est vrai. On parlait tout à l'heure du vol le long de la mer, mais que dire aussi de la traversée vers la Corse, c'est aussi très intéressant. C'est quelque chose que j'ai fait bien des fois aussi.
Même avec un seul moteur ?
Même avec un seul moteur, oui. Oui. Oui, oui. Alors il y a un petit moment d'angoisse, puisque ça dure une quarantaine de minutes pour traverser, pour trouver ce fameux point qu'en général, le GPS nous aide bien à trouver au milieu de la Méditerranée, entre, disons, Nice et Calvi, qui s'appelle Merlu, du nom du poisson, qu'il faut absolument franchir à une certaine altitude. Mais une fois qu'on arrive sur l'île de Beauté, c'est un enchantement de le faire en avion. C'est vraiment très très beau.
Et vous venez de parler du GPS, et malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans tout ce que vous venez de nous dire, vous avez beaucoup insisté sur les instruments. On n'a pas parlé de GPS, qui montre bien que dans l'apprentissage du pilote, bon, il y a les acquis fondamentaux. Le GPS dont on dispose aujourd'hui dans la voiture, dans les avions, bien évidemment, arrive en complément, certes, et de plus en plus utilisé, mais... Bon, c'est un complément, on peut le dire, par rapport à tout ce qui existe dans l'avion. Enfin, je parle des avions légers. Là,
oui, oui, tout à fait. On a même une évolution maintenant des avions légers vers ce qu'on appelle le glass cockpit, c'est-à-dire tous les instruments sont synthétiques au travers d'écrans. Et donc, c'est une évolution qui est tout à fait moderne, mais... qui est aussi très intéressante, et en particulier avec le GPS intégré, où là, les trajectoires sont très très faciles, puisqu'il suffit de pianoter, comme on le fait à bord de sa voiture, un itinéraire pour le suivre avec précision.
Voilà, vous avez tracé la route vers l'avenir. Merci beaucoup, Dominique Allais, de nous avoir éclairé, et je l'espère d'avoir donné à nos auditrices, auditeurs, plus encore l'envie de voler. En particulier à ces jeunes, et pour citer Daniel Balavoine, ces jeunes qui aimeraient mieux être un oiseau, Dodo, l'enfant doux. C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec à la technique notre précieux Jean-Loup Arzac. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que les précédentes déjà diffusées sur le site de la station ou la page Facebook d'Occitanie Première, Esprit Occitanie. Au revoir et bonne soirée à toutes et à tous.